Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Un soupçon de radicalisation chez un fonctionnaire devra automatiquement faire l'objet d'une signalisation, a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, 4 jours après l'attaque au couteau au sein de la préfecture de Paris jeudi qui a fait 4 morts. Parmi les fonctionnaires de police, l'auteur de l'attaque travaillait pour la direction du renseignement, était habilité secret défense. Il a échappé à la vigilance de ses collègues et des autorités. Comment identifier un individu radicalisé et quelle stratégie adopter pour repérer ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte? Bonjour Thibault de Montbrial.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de fonctionnaires qui se soient radicalisés à l'insu de leur entourage?
Alors, c'est évidemment aujourd'hui une question qui est absolument cruciale, qui est vitale. Un rapport parlementaire a été produit au mois de juin de cette année, et il dénonçait l'ampleur de la radicalisation dans un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre de services publics, et pour ce qui concerne les services régaliens, il était plus mesuré en disant que la stratégie d'empêcher cette radicalisation ou d'empêcher les radicalisés d'accéder à des postes clés était à peu près efficace. Mm-hmm. Et il disait que l'armée et la police comptaient une vingtaine ou une trentaine d'individus concernés. En réalité, l'enjeu, ça n'est pas tellement à l'entrée de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, puisque là, il y a des filtres effectivement assez efficaces, mais l'enjeu, c'est d'identifier les modifications d'individus au cours de leur carrière, au cours de leur vie. Quelqu'un qui, il y a 20 ans, a une allure et une idéologie simple peut tout à fait basculer 5, 10, 15 ans après des parcours de vie, qu'est-ce qu'il est. Donc, c'est ça l'enjeu. Et évidemment, comme toujours, quand l'administration donne des chiffres, c'est un chiffre de gens identifiés, donc c'est le chiffre blanc, et puis il y a un chiffre gris. Et en réalité, des nombreuses anecdotes, des contacts que j'ai avec les uns et les autres, on peut considérer que ce chiffre, malheureusement, est un peu supérieur. Alors, il ne faut pas dramatiser, ça n'est pas une catastrophe absolue, mais il faut une vigilance qui soit une vigilance sans naïveté. Et c'est sans doute là le cœur du problème, c'est que il faut ouvrir les yeux et il faut avoir conscience de ce que les stratégies d'infiltration et des stratégies de retournement d'agents qui sont déjà en place par des gens qui sont à l'extérieur de l'administration est aujourd'hui, compte tenu de la stratégie islamiste en Europe, parfaitement envisageable, et donc il faut être vigilant.
Mais comment faire pour justement repérer un individu radicalisé? Par exemple, cet homme, Michael Harpon, celui qui a assassiné 4 personnes au sein de la préfecture de police, cet homme s'était réjoui en 2015 des attentats contre Charlie Hebdo. Est-ce que cela aurait dû faire office de signal? Est-ce que, en tant que tel, ça ne pouvait pas être considéré comme un détail important, Thibault de Montbrial?
Alors la question que vous posez sur l'affaire Harpon, elle est essentielle, parce que là on parle pas de radicalisation, mais se réjouir d'un attentat, ça porte une qualification pénale, c'est de l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire que ce qu'a fait Michael Harpon en juillet 2015, d'après plusieurs témoins, et c'est confirmé par la note de la DRPP de samedi, ça n'est pas un acte de radicaliser, c'est tout simplement de l'apologie du terrorisme. Donc en soi, et indépendamment des questions de radicalisation, ça aurait dû conduire ipso facto directement à un rapport vers la hiérarchie. Il y a une faute énorme. Pour en venir aux questions de radicalisation, c'est en réalité, il y a tout un tas d'indices. Il y a des vade-mecum qui ont été faits pour les entreprises, pour l'administration. C'est un changement brutal d'attitude, un repli sur soi, une attitude plus agressive, un prosélytisme. Enfin, il y a tout un tas d'indices, et il faut plusieurs de ces indices. Le fait que quelqu'un tout à coup devienne très religieux en soi n'est pas un problème. Donc, par contre, il faut s'interdire la fausse naïveté et surtout sortir d'aujourd'hui ce qui est en réalité la difficulté, et beaucoup de gens n'osent pas le dire, mais malheureusement, il faut le dire, c'est que il y a une contrainte et les collègues de ces gens, leurs supérieurs, sont tétanisés par l'idée d'être accusés de discrimination. Or, il faut faire la différence entre la discrimination, qui n'est évidemment pas acceptable, et le fait, encore une fois, d'être lucide sur l'évolution d'une personne qui peut conduire à ce qu'elle nuise à son administration, au pays et même à ses camarades dans le cas d'un passage à l'acte terroriste.
Alors, on l'a vu, dans ce cas-là, il y a eu une faille, puisque un homme aurait dû être détecté, il ne l'a pas été. Est-ce que vous n'avez pas peur, Thibault de Montbrial, qu'à partir du moment où on dit « il faut évoquer les soupçons que l'on a », on se retrouve avec une avalanche de faux positifs, comme on dit, autrement dit, de gens qui vont être désignés comme radicalisés alors qu'ils ne le sont en rien.
Vous avez tout à fait raison, et c'est l'une des nombreuses raisons, c'est loin d'être la seule, mais c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles cet attentat est une véritable catastrophe. Moi, je pense que c'est le plus grave en France depuis le 13 novembre 2015.
À ce point-là?
Oui, alors, pas par le nombre de victimes. À Nice, il y en a eu infiniment.
Bien sûr.
C'est un drame humain absolument terrible et terrifiant. Mais l'impact sur le cœur même de nos institutions n'est pas le même. Là, nous avons affaire à quelqu'un chacun a bien connu une conscience de l'histoire maintenant, et qui est entré au cœur du système, ou qui a changé alors qu'il était au cœur du système, plus exactement, avec de nombreuses conséquences. Et la défiance envers les uns et les autres, que vous soulignez comme possible, c'est évidemment une des conséquences de ce qui va se passer. C'est-à-dire que depuis jeudi dernier, la vie dans les casernes et dans les commissariats, elle a légèrement changé. Et il faut évidemment se garder de se retrouver avec une avalanche de faux positifs, comme vous le soulignez très justement. Mais en même temps, il faut être conscient de cette hypothèse. Et donc, en réalité, ça va être aux structures de l'administration de s'adapter. Mais les outils existent déjà. Et il va falloir les appliquer finement. Et c'est effectivement un défi. Mais c'est indispensable.
Mais alors, par exemple, les fiches S, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ces fiches S, avec ce type de drame, ne deviennent pas en quelque sorte caduques, parce qu'on se demande ce qu'il y a à l'intérieur? Alors on a des faux positifs et puis il y en a d'autres qui passent au travers des mailles du filet.
Alors en réalité, la fiche S est un outil de travail pour... c'est un peu technique, mais le vrai problème, c'est pas la fiche S. Le vrai problème, ce sont les gens qui sont inscrits ou pas au FSPRT, qui est le fichier des personnes radicalisées avec un risque terroriste qui existe depuis mars 2015. Il est absolument clair que quelqu'un qui figure sur ce fichier n'a rien à faire dans une administration régalienne, mais dans l'administration tout court. Mais il faut aller plus loin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les administrations régaliennes et dans les secteurs stratégiques, on ne peut pas prendre le risque de garder quelqu'un qui a une attitude islamiste rigoriste. C'est-à-dire qui adhère à une idéologie par son comportement. Alors évidemment, avec les indices dont je parlais tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment. Mais à partir du moment où quelqu'un adhère à une idéologie rigoriste dont on sait par ailleurs, parce que évidemment, on le sait, tout ça est documenté, que son objectif final est de déstabiliser les institutions des pays occidentaux, on ne peut pas prendre le risque de garder des gens comme ça dans des administrations avec des armes, avec un accès à tout ce qui est stratégique. Et là, je pense qu'il va y avoir un choix à faire et que ce choix devra être assumé, éventuellement pris par la loi. Mais on ne peut pas se permettre... Vous imaginez si demain ou après-demain, vous avez un attentat de masse qui est commis par un individu dont on découvrira qu'on savait depuis des mois ou des années
évidemment
qu'il était rigoriste, mais qu'on a dit « Ah ben non, mais non, on ne peut pas prendre ce risque-là ».
Merci beaucoup Thibaut de Montbrial. Je rappelle que vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.